à tous, voici l'Esprit Public et aujourd'hui c'est notre grand retour sur la scène magnifique du Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe à Paris. Bienvenue à vous, bienvenue à tous, merci d'être toujours aussi fidèles à nos rencontres. En votre compagnie, comme toujours, nous allons revenir sur les temps forts de la semaine politique et géopolitique avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, l'homme qui chaque jour dessine le monde, Maître Plantu, je vous salue, et le journaliste et essayiste Brice Couturier. Au sommaire de nos échanges, Berlin 1989-2019, l'Allemagne et l'Europe à l'heure des doutes. Après la rencontre Macron-Xi Jinping, peut-on encore résister à la Chine? Et enfin, juste un zeste de politique française, de Rachida Dati à François Baroin, quel espace pour cette droite qui n'est ni Macron ni Le Pen? La fête était tellement belle il y a 10 ans pour les 20 ans de la chute du mur. Novembre 2009, des dirigeants de la planète entière s'étaient déplacés pour faire tomber un modèle de mur devant la porte de Brandebourg à Berlin. Novembre 2019, l'ambiance est tellement différente. Les frontières sont revenues, l'Union européenne voit des pays libérés il y a 30 ans du glacis communiste comme la Hongrie ou la Pologne remettre en cause l'état de droit et partout la tentation nationaliste est perceptible dans les opinions. 2009-2019, autre ambiance aussi à l'intérieur du pays d'Angela Merkel, entre poussée électorale de l'extrême droite et dégradation des performances économiques du pays. Alors bien sûr, il y a eu malgré tout samedi à Berlin des expositions, des concerts, des discours des dirigeants européens, polonais, tchèques, slovaques et hongrois présents. Emmanuel Macron, lui, n'arrive que ce soir en Allemagne, dans le but, je cite les éléments de langage élyséen, d'avoir un moment de réflexion sur l'héritage de 1989 et le sens du projet européen en mettant l'accent sur l'importance du couple franco-allemand. Emmanuel Macron, qui jugeait cette semaine dans The Economist que l'OTAN est en état de mort cérébrale, invitant l'Europe à se réveiller pour garder le contrôle de sa destinée. Avec un sombre pronostic, le président français s'alarmant de la fragilité extraordinaire de l'Europe qui disparaîtra si elle ne se pense pas comme puissance dans le monde, dénonçant encore une communauté qui ne se pense que comme marché. Et le président lançant un pavé dans la mare allemande, celui des 3%, le totem budgétaire européen, un débat d'un autre siècle pour le président français. Vous avouerez qu'on a connu plus serein comme anniversaire et comme réunion de famille.
À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Et là, sur le pont de Bornholmer, 28 ans après, les deux côtés se retrouvent.
Comment on dit en France ? Fraternité, liberté, égalité. Et je crois que ça vient ici aussi.
Voilà, archives sonores de cette nuit extraordinaire et historique de novembre 1989 à Berlin. Aurélie Filippetti, 30 ans après, pourquoi est-ce que tout le monde s'accorde à dire depuis quelques heures, quelques jours, que la fête, cette fois-ci, a un goût un peu différent, un peu amer ?
Mais tout d'abord, je ne sais pas si la fête a un goût amer, mais c'est certain qu'elle est beaucoup plus nationale et finalement allemande qu'européenne. Et c'est peut-être ça qu'on peut regretter, parce que normalement, ça devrait être la fête de la liberté et de l'unité de l'Europe retrouvée, au fond. C'était ça, en tout cas, l'idéal de 1989. C'était un idéal d'égalité entre toute l'Europe et de liberté. Et 30 ans après, ce que l'on peut constater, c'est que finalement, chacun de nos États européen a repris, a renationalisé sa politique en mettant beaucoup plus en avant au premier plan ses intérêts nationaux plutôt que l'intérêt général européen. Et on le voit évidemment avec, par exemple, la critique que moi je trouve tout à fait fondée du président de la République de cette règle des 3% du budget du déficit en Europe pour chacun des pays européens. Mais évidemment, en disant cela juste avant la grande fête de la réunification allemande, il jette un pavé dans la mare vis-à-vis du gouvernement allemand. Et donc, au fond, il vient un petit peu gâcher cette fête, bien entendu. Et en même temps, je trouve qu'il a raison, parce que sans doute que cette Europe, telle qu'elle s'est construite depuis 30 ans, a été sans doute beaucoup trop, finalement, au service des intérêts de la politique allemande, de la politique économique allemande, et aussi, finalement, en réponse aux obsessions légitimes, hein, du point de vue allemand, mais du déficit, de la dette, etc., qu'au service des intérêts économiques européens. Donc les peuples ont beaucoup souffert, le chômage dans nos pays est très important alors qu'il est très faible en Allemagne, et évidemment ça se paye aujourd'hui par un retour du nationalisme dans chacun de ces pays.
Jean Plantu, si vous deviez dessiner ou croquer Berlin 1989 versus Berlin 2019, ça donnerait quel genre de contraste ?
C'est un dessin que j'ai fait il y a plus de 10 ans, et que je ressors tous les ans, en novembre. Je suis désolé, mais malheureusement, vous savez, les dessins qu'on ressort régulièrement, c'est pas bon signe. Mais voilà, c'est en deux images. Avant 89, on ne pouvait pas se rencontrer, et on voit les deux drapeaux, l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, et il y a ce mur, qui a été terrible pendant des années. Et puis, deuxième image, sous fond bleu, tout est beau, il y a l'Europe, il y a les 12 étoiles dans le ciel. Aujourd'hui, tout est possible. Et chacun des petits personnages, maintenant, se serre la main. Et chacun est comme un homme de sandwich, avec un petit mur derrière lui. Et il y a des gens qu'on n'écoute pas. Alors aujourd'hui, j'aurais rajouté des migrants. Mais à l'époque, il y avait déjà un vrai problème de pauvreté. Et c'est vrai qu'on a réinventé d'autres murs. D'ailleurs, on aurait dit que le président allemand avait repris votre dessin dans son discours quand il était à Brandebourg. Et je me souviens aussi l'autre chose, je vous le dis, c'est que on devrait faire énormément de pédagogie, encore plus dans les écoles, parce que je me souviens que dans les années 70 et 80, je faisais des dessins, on faisait, avant la chute du mur, je faisais des dessins avec les deux ogives nucléaires du côté des Pershing, côté de l'Occident, et côté SS-20 du côté de l'Est. Et en fait, j'étais à Strasbourg hier pour célébrer la démocratie et la liberté d'expression dans la région Grand Est, et finalement, je m'aperçois que les jeunes, ils ne savaient pas que il y a plus de 30 ans, il y avait des ogives, des SS-20 dirigés vers Paris, et il y avait du côté de l'Allemagne, du côté de la Grande-Bretagne, des ogives dirigés vers Moscou.
Hubert Védrine, c'est aussi comme ça que vous regardez l'Europe de 2019, une Europe avec une multitude de petits murs ?
Moi, je pense qu'il faut analyser ça comme une gigantesque illusion d'optique. D'abord, le mur n'a pas été renversé à coup de pioche. Il était ouvert. C'est pas la chute, c'est l'ouverture du mur par les autorités de Berlin-Est, dépassées par les événements, et qui n'ont pas osé tirer sur la foule qui s'est rassemblée à la porte, parce qu'ils avaient entendu à la radio que la libre circulation était établie, même à Berlin, alors que c'était un mur en carton-pâte, puisque tout ça a commencé des années avant, en Pologne. Jean-Paul II, Waleza, Solidarność, en Hongrie, des mois avant. Les Hongrois ont coupé, parce que là on parle du petit morceau berlinois du rideau de fer. Les Hongrois l'ont ouvert des années avant. Bon, en plus, tout le monde s'attendait depuis des années à ce que l'URSS s'affaiblisse tellement qu'elle ne puisse pas empêcher la réunification. Helmut Schmidt et Mitterrand en ont déjà parlé en octobre 81. Bon, ce qui fait que les gens au pouvoir, ils étaient préoccupés par une seule chose, comment gérer tout ça pour que ça se passe le moins mal possible, le mieux possible. Alors, il y a l'accélération, parce qu'il y a eu cet enchaînement cocasse d'informations à Berlin-Est. Madame Merkel est sortie, elle a acheté manger un chocolat en face, elle est revenue chez elle. Bon, ça n'a absolument rien changé au processus de préparation de la suite. D'ailleurs, Helmut Kohl, qui était en voyage en Pologne ce jour-là, il a dit, de toute façon, la réunification, c'est pas de mon vivant. Helmut Kohl, ça fait rigoler quand on pense aux polémiques débiles sur les positions de Mitterrand sur le sujet. Et après, Kohl a pris le mouvement, il l'a suivi, mais il a fait un discours 15 jours après l'ouverture du mur, en disant on peut enfin envisager peut-être un jour la réunification. Bon. Et après, tout ça s'est accéléré, notamment en 90. Donc c'est une date absolument très très émouvante du point de vue berlinois, on va dire, très importante du point de vue allemand, mais qui, en termes de relations internationales, n'est pas importante, puisque le début, c'est longtemps avant, que l'URSS dure 2 ans après, que tout ça a été très bien géré. En revanche, mais c'est un autre sujet, la relation après avec la Russie. La Russie, issue du démembrement de l'URSS, n'a pas été intelligemment gérée, mais c'est après.
Alors c'est après, mais c'est maintenant
ça,
que
ça
nous allons en parler.
Sur notre époque, quand même,
c'est
ça.
Quand même maintenant que nous allons en parler d'une certaine manière avec vous, Brice Couturier, puisque c'est vrai qu'on a le sentiment d'avoir deux images parallèles à l'occasion de ce trentenaire de la chute du mur de Berlin. D'un côté, une Angela Merkel un peu seule, ou en tout cas curieusement entouré uniquement des pays du groupe de Visegrad, rappelant avec une certaine gravité émotion dans la voix qu'aujourd'hui il faut de nouveau défendre les valeurs démocratiques de l'Union européenne, et de l'autre, le président de la République qui n'arrive que ce soir en Allemagne et qui a accordé cet entretien, cette interview à l'hebdomadaire britannique The Economist et qui joue les Cassandres ou pas, ou qui a la gravité qu'il faut avoir en ce moment pour expliquer que l'Europe est au bord de disparaître, si elle n'est qu'un marché, si elle ne se pense pas comme une puissance, qui soulève la question épineuse des 3%, qui parle de l'OTAN, qui parle du nécessaire, indispensable rapprochement avec la Russie, autant de thématiques qui sont potentiellement des sujets de discorde avec la chancelière allemande.
Vous parliez de The Economist en avril dernier, la couverture de The Economist, il y avait la chancelière allemande, il y avait marqué « Cool Germany ». C'était évidemment une référence au slogan de Tony Blair dans les années 90, qui était « Cool Britain ». Et donc, il y a quelque chose qui s'est produit, c'est que l'Allemagne est devenue un pays cool, un pays à la fois à la mode et un pays tranquille. Et je suis très intéressé par un bouquin qui est sorti tout récemment de Susan Neiman, qui s'appelle « Learning from the Germans, Race and the Memory of Evil ». Cette femme dit que les Allemands sont, cette femme américaine, dit que les Allemands sont devenus un modèle de reconnaissance des maux accomplis dans le passé, dont, écoutez bien, les Américains devraient s'inspirer face à leur propre passé esclavagiste et raciste. Elle dit « J'ai commencé ma vie comme fille blanche dans le Sud ségrégué. Il est probable que je le termine comme une femme juive à Berlin. Qui aurait imaginé qu'en 2-3 générations, l'Allemagne qui était le repoussoir du monde soit devenue le modèle ? Le problème de l'Allemagne et celui de l'Europe, pour répondre à votre question, c'est que « Cool Germany », c'est bien gentil, le soft power, c'est formidable, être la quatrième puissance économique du monde, c'est très très bien, mais il faudrait aussi assumer quelques responsabilités sur le plan diplomatique et militaire, en Europe en particulier. Or, l'Allemagne actuelle ne le fait pas. Autre livre, celui de Joseph Joffe, qui est le rédacteur en chef de Die Zeit, il dit, c'est un livre formidable, qui s'appelle Der gute Deutsch. Vous savez, on disait toujours le bon allemand, c'est celui qui est pas nazi. Der gute Deutsch, le sous-titre de son bouquin, c'est Die Karriere einer moralischen Supermacht. La carrière d'une superpuissance morale. Et la thèse de Joffe, c'est que l'Allemagne ne peut pas rester éternellement une puissance civique et morale, elle doit accepter les responsabilités qui vont avec le hard power. Son livre se présente comme une espèce de Bildungsroman. Il dit dans les années 50, l'Allemagne était un enfant qui étudiait selon les règles de l'Occident. Dans les années 60 et 70, elle était devenue adolescente, elle regardait son propre passé nazi, l'Ostpolitik de Brandt faisait partie de sa jeunesse, on découvrait des possibilités nouvelles comme on le fait dans les adolescences. Depuis la réunification allemande, l'Allemagne est rentrée dans l'âge adulte, et l'âge adulte exige d'assumer ses responsabilités. Donc l'idée de Macron, c'est de répéter aux Allemands, vous ne pouvez pas rester sur le bord du chemin, vous ne pouvez plus compter sur la défense américaine, le grand protecteur américain, car Trump s'en va et vous le dit, et ne vous faites pas d'illusions, ses successeurs ne seront pas plus bienveillants à l'égard de l'Europe que Trump lui-même. Donc, s'il vous plaît, défendons-nous, car nous sommes effectivement... Un dernier mot, je pense que l'Europe aujourd'hui est en retard d'un logiciel. Vous savez, il faut faire des mises à jour de temps en temps. Nous sommes restés, en réalité, dans nous tous européens, autant que nous sommes restés à l'époque du multilatéralisme des années triomphales des États-Unis, où le Fukuyama nous chantait la fin de l'histoire. Il n'y a pas de fin de l'histoire, il y a le contraire, il y a le retour des empires. Regardez, l'empire russe, l'empire chinois, l'empire perse, l'empire turc, voilà, il y a des empires et il y a l'Europe qui n'existe pas. Ça ne peut pas continuer comme ça, nous allons disparaître.
Aurélie Filippetti.
En même temps, il ne faut pas voir l'Allemagne non plus d'une manière monolithique, car au fond, ce que nous ont appris les élections allemandes récentes, c'est que le mur économique entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, il est encore bien réel. Il y a eu un rattrapage depuis 30 ans, évidemment, très important en termes de niveau de vie. Néanmoins, il y a encore un décalage de 20% entre le niveau de vie des Allemands de l'Est et celui des Allemands de l'Ouest. Il y a beaucoup plus de chômage en Allemagne de l'Est, Évidemment, ça n'est que 6,5%, ce qui semble très peu par rapport à nous. Mais du côté ouest, il y a 3% de chômage. Donc le décalage entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, il existe vraiment d'un point de vue économique, d'un point de vue de niveau de vie. Et ça a des répercussions aussi, évidemment, en termes politiques, comme on l'a vu avec les élections en Thuringe très récemment. Victoire du président sortant de Thuringe, qui est membre de Die Linke, mais une très très forte poussée de l'AfD, de l'extrême droite donc allemande, qui a en fait ses bastions dans les Länder, qui étaient auparavant les Länder de l'Est.
Il y a cette situation allemande, en effet, avec cette montée de l'extrême droite, et cette situation européenne à laquelle je vous ramène, Hubert Védrine. Pourquoi, d'après vous, Emmanuel Macron, le président de la République, choisit cette semaine de tenir ces propos-là dans The Economist, c'est-à-dire la semaine de l'anniversaire de la chute du mur de Berlin ?
Encore une fois, je pense que la date de la chute du mur, entre guillemets, est exagérée. Mais en fait, c'est une opportunité pour s'exprimer. Et on retombe toujours sur la même question, qui est que ce que nous appelons l'Europe, c'est un mot valise, n'a pas du tout été conçu pour être une puissance. Jamais. Les concepteurs de l'Europe, les fameux pères fondateurs, voyaient ça sous le parapluie atlantique que les Européens avaient supplié les États-Unis de rétablir pour les protéger face à Staline. Ça n'a pas changé dans les têtes, fondamentalement. Et donc, ce que le président Macron, disons, redénonce maintenant, c'est quelque chose qui est structurel dans l'Europe d'aujourd'hui. Il n'y a que Sigmar Gabriel, l'ancien président du SPD, qui a dit une chose très forte il n'y a pas longtemps. Il a dit « Nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques. Et on va finir comme des proies. Mmh. » C'est beaucoup plus intéressant que ce qu'a dit Mme Merkel. Mais c'est une réalité de fond, ça. Donc, le décalage en Allemagne, ce n'est pas notre problème. C'est la même chose en Italie, qui a été unifiée il y a 150 ans. Bon, donc, ce n'est pas notre sujet, ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre responsabilité.
La montée de l'extrême droite en Italie s'explique comme ça.
La question que nous avons à traiter, c'est que les sociétés européennes sont frappées, elles aussi, comme toutes les sociétés occidentales ou liées aux occidentaux ou démocratiques, par le décrochage des classes populaires d'abord, des classes moyennes ensuite, qui ne pensent plus que la mondialisation tant vantée ou l'intégration européenne soit bonne pour elles. Bon, c'est ça le sujet. Mais c'est pas propre à l'Allemagne, c'est de la faute de personne. C'est il faut prendre ça collectivement et pas qu'à l'intérieur de l'Europe, sinon on comprend rien à l'électorat Trump et au fait qu'il puisse être réélu. Bon, donc le président a décidé de jeter un pavé dans la mare, en disant la vérité, en fait, par rapport à ça.
Et ce qui est il dit la vérité, mais surtout, il émet un souhait et un projet. Est-ce que c'est un vœu pieux ? Je vous écoute. Ben, compte tenu de ce qu'a été l'Union européenne, non, comme Emily, vous l'avez dit.
On ne sait pas. On va voir la suite. Normalement, il dit il faut se ressaisir. Vous voyez l'état du monde, la Chine et compagnie. Bon,
cessez de vous considérer uniquement comme un marché. Apprenez à vous situer comme puissance vis-à-vis du reste du monde.
Presque tous les Européens pensent ça. C'est un marché commun, puis un marché unique, protégé par les États-Unis. On n'est pas sûr qu'ils nous protègent, mais par pitié, on va faire comme si c'était vrai. Bon, le président français dit qu'il faut quand même sortir de tout ça. Donc on va voir maintenant quelles sont les réactions, peut-être de réveil et constructives par rapport à ça.
Alors, Brice Couturier, question. Avec notamment ce qui est dit par le président de la République sur cette relation à réinventer, ce partenariat à rétablir avec la Russie.
Alors, sur la Russie, je vais revenir. Mais d'abord, sur Sigmar Gabriel. Lui aussi vient de sortir un bouquin très intéressant qui s'appelle Zeitenwende in der Weltpolitik. Changement d'époque dans la politique mondiale. Et le sous-titre est intéressant. Davantage de responsabilité dans un monde incertain. Donc, ça vous montre bien que si Merkel, en bout de course, avec sa CDU, qui était, souvenons-nous, il y a 10 ans, le plus puissant parti d'Europe, aujourd'hui perd les élections partout, comme le SPD du reste, auquel appartenait Gabriel. Mais le fait est que Merkel est en bout de course et qu'une bonne partie de la classe politique allemande, y compris au SPD comme Gabriel, a très bien compris l'appel du pied que lui lance Macron et est prête à y répondre. La question, c'est de se débarrasser de Merkel, en réalité, parce qu'elle, effectivement, elle vit dans les années 90. N'oublions pas que c'était la fille adoptive, politique d'Helmut Kohl. Elle vit ce grand moment glorieux de l'unification allemande et de la chute du mur. Mais le monde a terriblement changé, encore une fois, depuis, et elle ne l'a pas compris. Donc il faut changer d'époque. Sur la Russie, maintenant, Gabriel, lui, dit... Sigmar Gabriel, lui, dans son... Peter, c'est un autre. Lui, dit qu'il faudrait s'inspirer de l'Ostpolitik de Willy Brandt pour remettre la Russie dans le jeu. Il y a d'autres auteurs allemands qui sont beaucoup plus critiques et qui pensent que face au contre-modèle autoritaire, impérial, agressif. N'oublions pas les agressions contre les voisins, et pas seulement l'Ukraine. On est quand même, la Russie est quand même le seul pays en Europe à avoir annexé le territoire d'un de ses voisins. Face à cette agressivité russe, à ce contre-modèle autoritaire qui se répand en Europe, car après tout, les populistes que nous venons de citer en Italie, en Allemagne, l'AFD, etc., n'ont qu'un objectif, qu'un horizon, c'est Poutine. C'est l'homme fort qui va défendre les intérêts nationaux envers et contre tout, y compris en agressant ses voisins. Si nous ne voulons pas être entraînés dans un cycle guerrier, parce que ça serait la seule issue, si ce genre de personnage prenait le pouvoir un peu partout en Europe, il faut au contraire défendre notre modèle de civilisation européenne qui est libéral, qui est ouvert, qui est mondialisateur, qui est multilatéral. Et qui est démocratique.
Aurélie Filippetti, rapidement.
Oui, moi je reviens quand même sur la question économique aussi, parce qu'on peut parler de puissance européenne, militaire, plaider pour une Europe de la défense comme fait le président de la République, mais tout ça n'existera pas tant qu'il n'y aura pas une vraie cohésion économique au sein de l'Union européenne. Or, pour l'instant, elle n'existe pas. C'est-à-dire qu'au fond, les pays jouent les uns contre les autres en matière économique. Et là, Emmanuel Macron a quand même saisi l'occasion du départ de Mario Draghi de la Banque Centrale Européenne. Mario Draghi, dont certains disent que c'est celui qui a sauvé l'Europe de la récession économique. Pourquoi ? Parce qu'il a fait une politique monétaire extrêmement accommodante. Et il est responsable des taux d'intérêt très bas. Et donc, en fait, il a permis que l'Europe sorte de la spirale infernale de l'austérité suite à la crise de 2008. Or, évidemment, il est la bête noire des orthodoxes économiques allemands qui ont une haine viscérale pour ce qu'il représente et qui plaident pour un retour à une politique monétaire beaucoup plus stricte. Et ça serait un vrai danger pour nous tous et en particulier pour les classes populaires, les classes moyennes, c'est-à-dire que évidemment, ça signerait le retour de l'austérité. C'est au fond ce que Emmanuel Macron plaide hein, quand il dit il faut maintenant faire une politique budgétaire. C'est-à-dire qu'il faut passer à une deuxième étape. Il faudrait qu'on ait un vrai budget européen qui mette nos intérêts économiques et sociaux en commun.
Pour vous aussi, c'est le même sujet, Hubert Védrine, à la fois la construction économique ou la relance d'une Europe économique et la construction d'une identité géopolitique, avec ce qu'a dit le président de la République sur la mort cérébrale de l'OTAN et la nécessité d'inventer une Europe de la défense digne de ce nom.
Si vous permettez, je vais plutôt réagir sur la Russie, mais c'est lié à votre seconde question, parce que, encore une fois, les Européens, ils veulent plus de défense, ils veulent des acquis sociaux, ils veulent les dividendes de la paix, ils n'arrivent toujours pas à réaliser qu'ils sont, je le dis sans arrêt, et qu'ils sont plus dans le monde des bisounours, mais dans Jurassic Park, donc il faut, c'est ça quoi, le président essaye de provoquer. L'affaire russe est typique, il s'agit évidemment pas de s'inspirer de la politique russe. Et d'ailleurs, tous les spécialistes savent très bien que Poutine est au centre du jeu. Il n'est pas extrémiste en Russie, pas du tout. Il est au centre des différentes forces qu'il essaie d'équilibrer comme ça. Et pour le moment, il n'a rien agressé, sauf qu'il a profité d'un enchaînement de débilité de l'Occident dans l'affaire de l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, ce que Brzezinski considérait comme une erreur fatale à la fin. Bon, donc ce que tente le président sur la Russie, c'est beaucoup plus simple, d'après ce que je comprends. Il part de l'idée que c'est complètement absurde du point de vue de nos intérêts d'avoir avec la Russie des rapports beaucoup plus mauvais, beaucoup plus craintifs, beaucoup plus paranoïaques qu'avec l'URSS, qui était beaucoup plus dangereuse, qui s'ingérait beaucoup plus, qui assassinait beaucoup plus d'espions, qui avait des forces 10 fois plus grandes. Bon, donc il s'agit de relancer un processus, créer un cadre, non pas pour adopter les principes des Russes, mais pour un cadre de voisinage. C'est de la politique étrangère élémentaire, mais comme on a vécu dans un monde d'illusions moralisatrices creuses et inefficaces, c'est très compliqué d'en ressortir. Donc je trouve que c'est bien, et ça répond à votre deuxième point, vous voyez, sur la question identité. C'est à travers ça, mais est-ce que l'Europe est capable dans sa tête de se penser comme une puissance?
Bon, et une dernière question pour vous, Hubert Védrine, qui va nous amener à notre deuxième partie. Dans cette même interview de The Economist, Emmanuel Macron dit « La Russie n'a pas d'autre alternative qu'un partenariat avec l'Europe. Le chef du Kremlin n'a pas l'intention de devenir un vassal de la Chine. » Comme s'il voulait empêcher Vladimir Poutine de glisser vers ce qu'on appelle le grand projet Eurasie pour le ramener dans le giron européen. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Et puis après,
Plantier pour conclure. Il y a un débat en Russie. Entre ceux qui disent il faut quand même, les Occidentaux nous ont claqué la porte et puis nous ont piétiné, les sanctions et compagnie, donc on s'est lié avec la Chine et c'est notre intérêt. Et d'autres qui ont une trouille bleue de la s'allier avec la Chine, pour des raisons évidentes de poids économique, de démographie. En Sibérie, de l'Oural jusqu'au Vladivostok, il y a 20 millions d'habitants. Donc il y a des Russes qui ont peur. Mais certains Russes nationalistes durs qui poussent sans arrêt Poutine de ce côté-là disent on n'a plus le choix. Il n'y a aucune option en Occident pour établir des rapports ne serait-ce que réalistes de voisinage. Je ne sais pas quelle sera la réponse
Allons
finale.
Davantage vers Pékin que vers Bruxelles. Plantier, conclusion sur cette première partie.
Oui, j'aimerais parler des enfants, parce que moi je me souviens quand j'étais petit et que j'allais en Allemagne, dans ma famille, on disait oh, « tu vas aller voir les Boches ». Et j'allais à Baden-Baden, et puis moi j'avais des amis, ils m'habillaient avec une culotte de peau, bon j'étais content. Et je jouais avec eux, j'apprenais l'allemand, et ça faisait curieux dans ma famille quand même. Et aujourd'hui j'ai 4 enfants, et quand ils vont à Berlin, tout le monde trouve ça normal, et l'Europe qui ne se défend pas suffisamment bien devrait plus souvent parler d'Erasmus. Et je voudrais vous parler de comparer deux dessins d'hier et d'aujourd'hui sur le couple franco-allemand. On y voit Mitterrand avec Thatcher autour d'une table et avec Helmut Kohl. Et Helmut Kohl, on est en 89, ils sont en train de manger. Et puis Helmut Kohl, il est tout gourmand et il dit « j'ai de l'appétit pour deux ». Bon, alors ça c'était en 89 et tout le monde était content. Et aujourd'hui, on peut être content aussi, ça dépend des jours, avec notre petit camarade Macron, dans le même lit que la chancelière Angela Merkel. Et puis, on est en train de les pousser quand même à faire plus, tous les deux. Et donc, le titre des deux qui sont dans le lit, Angela et Emmanuel, ils disent... On vous dit qu'on s'aime. Et les deux personnes qui sont comme des nounous à côté du lit, oui, mais faites plus quand même.
Et on n'est pas convaincus. Et on n'est pas convaincus. Faites-vous dire à l'un de vos personnages. Excellente conclusion. En dessin, comme toujours avec vous, Plantu. Alors, on l'a dit, Emmanuel Macron sera à Berlin tout à l'heure. Après une folle semaine passée en Chine, le chef de l'État français effectuait sa deuxième visite d'État chez Xi Jinping pour un voyage, notamment sous le signe du business.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Agroalimentaire, aéronautique, luxe, les entreprises françaises ont donc conclu en Chine de beaux contrats, et ce dans tous les secteurs d'activité pour un montant de près de 14 milliards d'euros. Avec ce voyage en Chine, Emmanuel Macron ne voulait pas faire que du business, mais aussi faire ce qu'il préfère, de la politique. En emmenant avec lui dans ses bagages un membre du gouvernement allemand, un commissaire européen et les représentants d'une vingtaine d'entreprises allemandes. Le message politique envoyé était clair, la France toute seule sait qu'elle ne pèse pas beaucoup aux yeux de Pékin, mais dès lors qu'elle s'affiche comme leader de l'Union européenne, le rapport de force change peut-être un peu de nature. Il fallait lire cette semaine le sinologue Jean-Luc Domenac résumer cela en d'autres termes. La France est tout simplement trop petite pour la Chine. Et par ailleurs, nous sommes à ses yeux un pays bizarre. Car nous prétendons avoir une politique étrangère ambitieuse alors même que notre économie est faible. Dès lors, Xi Jinping voulait bien cette semaine recevoir avec beaucoup de chaleur son partenaire français, notamment dans le contexte de la guerre commerciale avec les États-Unis, et se montrer uni avec lui, par exemple, pour respecter les accords de Paris sur le climat. En revanche, pas question de laisser la petite France s'autoriser des leçons de morale. Avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron, Pékin avait ainsi transmis à Paris le message suivant « Merci de ne pas vous mêler des événements de Hong Kong ni des Ouïghours ». Le président Macron affirme pourtant avoir bravé l'interdiction et abordé ces sujets faisant part de ses, je cite, « préoccupations ». Pas de quoi faire beaucoup trembler la dictature made in China. Reste maintenant à savoir si, sur le plan commercial, Pékin aura entendu davantage la requête suivante des Européens, que leurs entreprises bénéficient en Chine d'un traitement égal dans l'accès aux subventions et aux marchés publics et disposent de voies de recours en matière juridique, à voir, ou adopter cette ligne de conduite confucéenne, avec la Chine toujours se préparer au pire, espérer le meilleur, prendre ce qui vient.
La France a des parts de marché à conquérir en Chine. On va le faire sans aucune naïveté, sans troquer quoi que ce soit, parce qu'on veut protéger justement à la fois la qualité de nos produits et notre propriété intellectuelle. Et on a énormément de marge de manœuvre encore, et c'est très bon pour tout le monde, en particulier pour nos producteurs.
La Chine va s'ouvrir pour fournir plus de marchés, d'investissements et des opportunités de croissance pour différents pays afin que nous nous développions ensemble.
Brice Couturier, est-ce que vous aussi, un peu comme le sinologue Jean-Luc Domenac, lorsque vous avez regardé cette semaine les images du voyage d'Emmanuel Macron en Chine, vous avez vu le petit président français devant l'ogre ou le tigre chinois ?
Mais déjà, souvenez-vous qu'en mars, quand Xi Jinping est venu à Paris, Macron a invité immédiatement à dîner Angela Merkel et Jean-Claude Juncker, à l'époque président de la Commission européenne. Donc Macron a fort bien compris quelle est la stratégie des Chinois. Les Chinois, à la fois, parce que c'est une tendance historique de leur diplomatie depuis maintenant 30 ans, favorisent l'Union européenne. Ils ont toujours pensé que l'Union européenne était plutôt une bonne chose pour équilibrer les autres grandes puissances qui peuvent les inquiéter, comme évidemment les États-Unis. Mais en même temps, les Chinois aimeraient bien pouvoir nous jouer les uns contre les autres. Les investissements chinois dans certains pays, en particulier ceux qui sont affaiblis par des finances publiques pourries comme l'Italie ou la Grèce, ont vu arriver les investisseurs chinois qui sont prêts à prêter, bien sûr, les Chinois ont tellement d'argent, prêter ou acheter des infrastructures, des ports ou des aéroports et des usines sensibles, des technologies de pointe. Il faut absolument pas que dans le conflit qui va opposer très prochainement la Chine, le compétiteur, le challenger, les États-Unis, l'ancienne superpuissance en déclin, les Européens se trouvent divisés, montés les uns contre les autres, vassalisés les uns par Pékin, les autres par Washington. Or, ne nous faisons pas d'illusions, si nous ne sommes pas capables de devenir une puissance, pour revenir au débat précédent, c'est ce qui va se produire. Il va y avoir des pays pro-chinois et des pays pro-américains en Europe. C'est ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est pourquoi Macron, quand il va en Chine, emmène le commissaire agriculture et la ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche, pour bien montrer qu'il ne vient pas seulement en tant que Français négocier pour les petits intérêts spécifiques de son pays, mais pour les intérêts de l'Europe unie. Et c'est évidemment une très bonne chose. Par ailleurs, les Chinois et nous poursuivons la même chose, la poursuite de la mondialisation que Trump veut casser. Trump est en train d'infiltrer l'OMC et de la mettre à genoux en refusant la nomination des juges de cette instance. Les Chinois qui ont accédé à l'OMC veulent la maintenir, et nous, Français et Européens, aussi. Nous sommes des mondialistes, nous sommes des multilatéralistes, les Chinois aussi. Les convergences s'arrêtent un peu là. Parce qu'effectivement, la Chine, comme la Russie, est une dictature. Je conviens probablement avec Hubert Védrine que c'est pas une dictature aussi sévère, parce qu'il n'y a pas un million de Ouïghours, il n'y a pas un million de Russes qui sont dans des camps de concentration, comme aujourd'hui il y a un million de Ouïghours qui le sont. Il n'y a pas la répression féroce des opposants, comme c'est le cas en Chine. Il n'y a pas l'utilisation en Russie des technologies de pointe pour identifier les individus et les classer dans des catégories sociales selon leur proximité envers le régime. Bref, la Chine est une dictature. Nous ne sommes pas une dictature, nous n'avons aucune envie de le devenir. Moyennant quoi, nous avons quelques intérêts communs et beaucoup de chemin à faire ensemble.
Hubert Védrine.
La question, c'est que faire face à la Chine, qui est une gigantesque puissance en plein développement depuis le coup de génie de Deng Xiaoping, qui a libéré l'extraordinaire force de la Chine tout en gardant le contrôle politique. Elle a fait une combinaison à laquelle l'Occident ne s'attendait pas, parce que l'Occident pensait que démocratie, marché, en fait, tout ça allait ensemble. Et on voit les résultats, et Xi Jinping a complètement abandonné la prudence et la modestie de Deng Xiaoping, et il assume cette puissance, et ils disent qu'en 2049, la Chine sera la puissance numéro un. Bon, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Paradoxalement, on peut être aidé par la brutalité de Trump, qui est parti en guerre contre tous les pays qui ont un excédent commercial sur les États-Unis. C'est ça son axe, hein. Donc il fait la guerre commerciale à la Chine, à l'Allemagne, etc., et à quelques autres. Ça nous donne, en théorie, la possibilité de retrouver un certain... Moi, je suis moins optimiste dans la description de ce que pensent les Chinois sur la mondialisation. Ils voient la mondialisation comme un champ d'expansion de la puissance chinoise, quoi, en gros. Bon. Alors, ça nous ramène à la même question. Est-ce qu'on présente un intérêt par rapport aux Chinois? L'Allemagne, oui, qui n'est pas non plus une puissance comme la Chine, hein, mais qui a quand même une capacité industrielle qu'ils n'ont pas abandonnée, contrairement à nous, avec une puissance formidable, de toutes les tailles, très bien. Mais c'est pas suffisant. Et l'Allemagne a géré les relations avec la Chine de façon germano-chinoise, depuis des années et des années, très bien. Alors ce que tente le président Macron est très bien, là aussi, c'est très bien, mais ça nous renvoie à la question d'avant. Est-ce qu'il peut entraîner l'Europe? Mais on vient de dire que l'Europe, non, mentalement, n'est pas du tout dans cette position, qu'il n'y a pas de puissance européenne, les Européens ont peur de la puissance, ils n'ont pas compris que ça conduisait à la dépendance la plus totale. Est-ce qu'il peut entraîner? Peut-être, on va voir.
Brice Couturier disait qu'il faut éviter que les Européens se scindent en deux familles, ceux qui restent dans le giron américain, ceux qui restent dans le giron... C'est déjà le cas, selon vous?
Tous les Européens sont protégés par les États-Unis. Ils ne sont pas pro-américains. Ils sont protégés par les États-Unis. Ils n'imaginent même pas une capacité militaire européenne pour se défendre par eux-mêmes.
Vous avez trouvé d'ailleurs comment l'expression l'OTAN en mort cérébrale utilisée par le président de la République, puisque vous parlez de l'OTAN?
Oui, j'ai dit, c'est un constat qui est en partie exact. La question est de savoir comment les Européens vont réagir à ça. Mais du point de vue chinois, il y a déjà des sommets qui sont un scandale absolu entre la Chine et la moitié des Européens. Tous les pays européens de l'ancienne Europe de l'Est et des Balkans, ils vont à ce sommet avec la Chine pour avoir de l'argent, pour avoir des trains, des trucs. Donc, oui, le président Macron a raison. La seule façon d'aller en Chine, en dehors des références au général de Gaulle et de ça, c'est de montrer qu'on présente un intérêt dans le jeu chinois. Mais il faut construire d'urgence, après ce voyage, un minimum de cohésion entre Européens et commencer par arrêter les sommets séparés entre la Chine et une quinzaine d'Européens. Donc il faudrait leur dire, vous choisissez. Est-ce qu'on est capable mentalement et politiquement de leur dire? Ils vont dire, non, mais vous n'êtes pas capable de donner autant que les Chinois.
Par ailleurs, avant de donner la parole à Aurélie Filippetti, on entendait à l'instant Xi Jinping dire, nous sommes prêts à nous ouvrir davantage. Vous croyez en effet que la Chine va faire un effort pour s'ouvrir davantage aux investisseurs français et européens?
Non, mais c'est l'intérêt de la Chine, mais ce n'est pas contradictoire avec le fait de devenir la puissance numéro un. Quand les puissances en expansion ont toujours un discours sur l'ouverture qui va avec, en fait.
Non, mais c'est purement artificiel, selon vous.
Et la mondialisation, qui est, j'ai dit, classe populaire et moyenne en Occident, considérait que c'était un peu un leurre pour elle, à tort ou à raison, mais pour les Chinois, non. Donc ils sont en phase d'expansion. Donc le président Xi peut dire ça en même temps, c'est pas contradictoire, mais ça ne règle pas notre capacité à nous. Est-ce qu'Européens, on est capable d'offrir quelque chose en face ou pas?
Aurélie Filippetti, ce que vous avez eu cette semaine avec ce voyage présidentiel, c'est quoi? C'est finalement aujourd'hui des démocraties occidentales qui n'ont pas d'autre choix que d'aller en Chine faire du business, ne surtout pas parler ou à peine des droits de l'homme et s'incliner devant le nouveau futur maître du monde?
Alors effectivement, il y a plusieurs paradoxes. D'abord, effectivement, Emmanuel Macron dénonce l'échec d'un certain multilatéralisme avec l'OTAN. Il a raison de le faire, puisque la Turquie, les États-Unis, leur attitude est absolument inacceptable et ils choisissent vraiment de faire cavalier seul, redéclencher une guerre en Syrie, etc. Bon, ça, c'est inacceptable. Donc l'OTAN, et 30 ans après la chute du mur, on peut se demander quelle est encore aujourd'hui sa pertinence, bien entendu. En même temps, il dénonce ça et il le fait seul. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, ça a été relevé par un éditorialiste du New York Times, ils disent, mais en fait, le président Macron commence, à force de prendre des initiatives tout seul, à être contre-productif. Bon, premier paradoxe. Deuxième paradoxe, on est dans les 30 ans de la chute du mur, c'est quand même, encore une fois, le symbole de la liberté, et il va faire un voyage officiel en Chine, pays qui s'est énormément durci du point de vue des droits de l'homme, des libertés individuelles, des libertés politiques et de l'état de droit, tout simplement, depuis 10 ans. C'est-à-dire qu'effectivement, ce pari de dire on va faire du commerce avec la Chine et petit à petit le pays va s'ouvrir et ainsi la démocratie va suivre au fond le développement du capitalisme en Chine, est un pari qui, à l'heure actuelle, a complètement échoué. Le régime chinois n'a jamais été aussi dur et jamais aussi peu. Ne parlons même pas de la liberté d'expression, mais encore une fois, simplement l'état de droit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour, par exemple, les universitaires, les intellectuels chinois, on sait qu'il y a une pression énorme sur tout simplement leur liberté les plus simples, sans parler des Ouïghours au Xinjiang qui sont enfermés, sans parler de la question du Tibet, etc. Donc, le régime est très, très, très dur. Et c'est au moment des 30 ans de la chute du mur qu'il va en Chine, sans tenir un discours très ferme sur les droits de l'homme, bien sûr. C'est en plein pendant la crise de Hong Kong. On a eu un premier mort apparemment hier, enfin ces jours-ci, avec effectivement pour la jeunesse de Hong Kong une menace énorme. Et on voit bien là que ça ne pourra pas tenir. Et pour l'instant, l'Occident fait l'autruche, en refusant pour ne pas s'aliéner au fond des intérêts commerciaux avec la Chine. Donc au fond, on est en train de céder du terrain sur nos valeurs démocratiques, nos principes, et pourquoi? Pour largement une illusion. C'est-à-dire qu'en matière commerciale, il faut voir que ce voyage a été quand même soldé par un échec. Alors c'est pas l'échec du président parce que ça fait 10 ans que ça dure, c'est le fameux contrat avec Orano, c'est-à-dire l'ancien Areva. Ça fait 10 ans qu'on essaye de négocier un contrat avec la Chine à 11 milliards d'euros pour un retraitement du combustible, et ça fait 10 ans que les Chinois nous disent oui, on va signer ce contrat dans les 3 mois, et ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien. C'était ça l'enjeu majeur et le plus important de ce voyage, et là-dessus il y a aucune
aucune avancée concrète. Alors oui, on peut parler du bœuf français qui va être plus exporté en Chine. Enfin, ça représente 40 millions d'euros, hein, autant dire une goutte d'eau. Et au fond, c'est en matière commerciale, il y a quand même vraiment un déséquilibre patent. C'est-à-dire que c'est la Chine qui investit massivement, qui prend des intérêts stratégiques en Europe. Elle a pris des intérêts massif en Grèce au moment de la crise de 2015. Là-dessus, Macron a fait une espèce d'autocritique d'ailleurs intéressante en disant on n'aurait pas dû les laisser faire ça en Grèce. Sauf qu'au fond, ça continue en France, par exemple, avec beaucoup de naïveté des autorités françaises sur les capacités d'espionnage industriel, de prise de contrôle de secteurs stratégiques de notre industrie. Et ça affaiblit toute notre industrie en France.
Voilà qui vous inspire le dessin suivant, Plantu. Racontez-nous, décrivez-nous.
On leur a quand même vendu du Bourgogne, hein, du Bordeaux,
et de la viande.
Et de la viande. Et puis là, j'ai fait Macron tout content. Il dit au président Xi Jinping. Alors le titre du dessin, c'est France-Chine, c'est pas gagné. On le mettra sur le site de France Culture. Et puis il y a Macron qui dit, bah ça c'est du Bourgogne. Et puis ça c'est du Bordeaux. Et Xi Jinping, il parle avec une petite chinoise. Il dit, c'est qui le gars qui me parle?
Est-ce que c'est aussi comme ça qu'il faut apprendre à regarder le monde dans lequel on vit aujourd'hui, Hubert Védrine? Le dessin de Plantu, finalement, correspond-il à une image assez juste de ce qui est en train de devenir le monde et de ce que nous sommes en train de devenir, nous, dans le monde?
Les Chinois connaissent quand même, les dirigeants chinois, hein, ils connaissent quand même la France. Évidemment, ils pourraient avoir l'attitude des grandes puissances et les Américains, etc., qui ignorent assez largement les autres peuples, mais il y a chez les dirigeants chinois le souvenir du général de Gaulle, les présidents français, Zhou Enlai et Deng Xiaoping, qui étaient ouvriers à Montargis. Enfin, il y a toute une sorte d'histoire par rapport à ça. Mais évidemment, ça change rien au rapport de force actuel. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est pas ridicule de leur vendre deux, trois choses, hein. C'est pas ridicule. La naïveté dont parlait Aurélie, elle est plutôt du côté du droit de l'hommisme. C'est triste à dire, je le dis, j'aime pas dire
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que mais... c'est le droit de l'hommisme?
Je vous dis,
en général, c'est péjoratif.
Non.
C'est pour ça que j'invite à une définition.
Non, mais c'est intéressant d'avoir l'occasion. Il y a une distinction entre l'attachement viscéral que nous avons tous pour les droits de l'homme et l'idée que nous sommes chargés de les répandre dans le monde entier. C'est le prosélytisme issu du catholicisme, d'aller évangéliser toutes les nations. C'est l'Occident qui est prosélyte, fondamentalement. On a évangélisé, maintenant il faut le droit de l'homiser. Moi, je dis avec
Aurélie Philippe Petit, c'est pas l'Occident qui a déclenché le mouvement de la jeunesse de Hong Kong. C'est bien les jeunes Hongkongais qui sont descendus dans la rue.
Je dis avec tristesse que les
avons poussés à le faire.
Tous les discours, disons idéalistes, droits de l'homme, sont à usage interne en fait, parce que ça plaît énormément aux opinions en Europe, en France, les médias, les intellectuels, etc.
Et que ça plaît peut-être aussi aux dissidents chinois, aux dissidents russes.
Attendez, même si c'est pas dans le sens dominant, laissez-moi terminer. Et je pense que les vrais progrès dans le respect des droits de l'homme qu'on espère pour eux, hein, prix de la démocratie, il est venu du mouvement interne des sociétés, partout, à commencer par chez nous. Ce n'est pas les Martiens qui nous ont le droit de l'homiser. C'est des batailles internes, chez nous. Donc c'est comme ça que ça progresse dans tous les pays qui ne sont pas conformes à nos valeurs. Mais on n'a plus le pouvoir, nous, Européens, sur la défensive, en désaccord entre nous, incapables de faire naître une Europe puissance. On n'a plus le pouvoir d'imposer nos concepts. On aimerait transformer la Chine, tac, d'un coup de baguette magique, en un gros Danemark. On serait très content. On est incapable de faire ça. Donc c'est des postures usage interne, donc il faut être sur le terrain réaliste.
Aurélie Filippetti,
Très brièvement, il y a en ce moment dans le monde deux modèles de sociétés qui sont en train de s'opposer et qui révèlent leurs potentialités respectives. Or, allez en Afrique, allez en Asie, vous verrez qu'il y a deux modèles. Il y a le modèle libéral, démocratique, occidental, et le modèle chinois. Ces deux modèles sont en concurrence. Ils ont tous les deux leurs mérites et leurs défauts. Tout le monde a très bien compris que le modèle chinois était un modèle agressif, mais un modèle très efficace sur le plan de la rentabilité économique, de l'enrichissement collectif. Il faut se méfier, parce que si nous ne défendons pas nos propres valeurs, si nous ne montrons pas que la liberté a beaucoup d'intérêt aussi, que s'il n'y a pas d'esprit critique, il n'y a pas de progrès. S'il n'y a pas de progrès, à un certain moment, le développement de la Chine va s'arrêter si l'esprit critique est interdit. Le progrès scientifique est basé sur l'esprit scientifique et la comparaison avec autrui. Il faut que nous défendions nos valeurs. Je suis d'accord sur le fond avec Hubert Védrine sur l'idée que quand on va défendre les droits de l'homme en Chine, on est ridicule parce que nous ne pesons rien. mais nous pesons sur le plan de soft power. Nous pesons quand nous brandissons nos valeurs avec fierté et que nous les opposons à ceux d'en face, qui sont la Chine et la Russie, mais aussi Erdogan et quelques autres, et que nous montrons qu'à côté des démocraties illibérales, il y a des démocraties libérales et qu'elles fonctionnent fort bien.
Allez, rapidement, Aurélie Filippetti et Plantu.
Oui, ce qu'on appelle le soft power, au fond, c'est une espèce d'influence intellectuelle, etc. Faut pas le négliger. Et si la France, si l'Europe renonce à incarner ça, c'est-à-dire renonce à incarner une grande tradition intellectuelle de liberté, etc., un courant de philosophie politique qui est au fond le libéralisme politique, c'est-à-dire pas simplement économique, mais avec l'état de droit, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, le pluralisme démocratique, à ce moment-là, on aura tout perdu. Moi, je me félicite, par exemple, évidemment, de l'ouverture du centre Pompidou à Shanghai. Ça, c'est une très bonne chose parce que mais il faut bien voir que le centre Pompidou à Shanghai, aujourd'hui, subit beaucoup plus de censure, par exemple, dans le choix des œuvres présentées, que, par exemple, le Louvre à Abu Dhabi. Aujourd'hui, il y a plus de liberté dans le choix des œuvres à Abu Dhabi que à Shanghai. Plantier.
Et d'ailleurs, on pourrait, dans le centre Pompidou de Shanghai, y montrer des dessins d'une petite Chinoise qui est en prison. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait des dessins très, très jolis. Elle a 22 ans. Alors, je suis le droit de l'homiste de service, hein, excusez-moi.
Mais, sous l'œil goguenard du Berbérine.
Mon boulot, c'est de défendre aussi les dessinateurs qui sont en tôle. Et donc, elle est chinoise. Elle dessine toute la société chinoise depuis quelques mois en petits cochons, avec des têtes de petits cochons. Ça n'a pas plus d'autorité, elle est en tôle. Voilà. Et notre boulot, c'est d'essayer juste d'accompagner le mouvement amical entre le peuple chinois et le peuple européen, et à la fois nous on est obligés, nous dessinateurs, dessinatrices, de dénoncer ce qui se passe dans les prisons chinoises.
Allez, retour en France, la petite France et ses enjeux de politique intérieure à mi-mandat d'Emmanuel Macron et à quelques mois des municipales. Le paysage politique est toujours en recomposition. Les partis traditionnels de gauche et de droite cherchant toujours à démontrer que le macronisme ne les a pas tués et que l'offre hexagonale ne se résume pas à un duel RN contre LREM. Dans ce registre, cette semaine, on a beaucoup entendu un certain François Baroin qui a intégré le comité stratégique de LR nous faire savoir qu'il aimait toujours son pays, la politique et la droite française. On a aussi assisté à l'investiture de Rachida Dati à la mairie de Paris. Elle portera les couleurs des Républicains. Les Républicains sempiternellement ramenés à cette question. Quel espace et quel avenir pour une droite qui ne serait ni Macron ni Le Pen ?
Ce qui nous attend, c'est une aventure d'une grande gravité. Et dès ce soir, avec vous, ensemble, nous prenons rendez-vous avec les Parisiennes et les Parisiens, mais nous prenons rendez-vous avec Paris.
Moi, j'ai pas eu toujours que la politique et j'ai pas que la politique dans le sang. J'adore ça, j'adore mon pays, j'adore le débat, j'adore échanger, j'adore faire. Mais j'adore aussi d'autres sujets. Et je suis pas sûr que je dirais à la fin, une fois que j'aurai terminé de compter mes points retraite, que j'aurai raté ma vie si je suis pas président de la République. Voyez, il y en a beaucoup qui parlent. Pour moi, c'est une décision tellement personnelle et qui n'engage que celui qui la prend.
Voilà, Rachida Dati et François Baroin, qu'on a beaucoup entendu ces derniers jours. C'est vrai qu'à mi-mandat, Brice Couturier fleurisse, ça y est, les sondages prospectifs 2022 qui tous nous annoncent au fond un remake de la présidentielle 2017, à savoir un duel Macron-Le Pen avec des scores incroyablement bas pour les deux anciens grands partis qui structuraient la vie politique française, l'ex-UMP devenu républicain et les socialistes. Est-ce que c'est le tableau de l'offre politique française auquel il faut se résigner ?
Avec des sondages qui se resserrent en plus, hein, puisqu'on n'est plus qu'à 45% Le Pen, 55% Macron, deuxième tour. Bon, écoutez, il y a le livre de Guillaume Tabar qui va sortir, que j'ai pas encore lu, mais dans le Figaro a livré de très larges extraits sur l'état de la droite actuelle, me paraît un très bon diagnostic. Que dit Tabar ? Il dit, la droite, les Républicains, se sont trompés du tout au tout sur ce qui s'est produit en 2017. Ils ont cru que, c'est l'erreur de Wauquiez en fait, ils ont imaginé que, un, Macron ne peserait pas lourd et ne pourrait pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale, il a une majorité écrasante, et ils ont pensé que l'échec de Fillon arrivait en troisième position, ce qui était grave pour les Républicains derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron, la troisième position de Fillon était due aux affaires et aux méchants juges socialistes. Ils se sont trompés. La preuve, c'est que François-Xavier Bellamy, qui va exactement sur le même créneau, celui d'une droite catholique, conservatrice, moralisatrice et provinciale, a fait 8% aux européennes. Un chiffre
dramatique pour la droite française, qu'elle n'avait jamais connue dans le passé. Ça montre bien que l'analyse était fausse. Elle s'est trompée sur Macron également. La droite a fait campagne, souvenez-vous, sur le thème « Macron est le faux-né de François Hollande ». C'est un socialiste qui veut nous faire une politique socialiste, c'est un strauss-kahnien. En réalité, Macron est arrivé effectivement à drainer une partie de la clientèle socialiste, celle qui était réformiste, libérale et européenne, mais aussi l'ancienne UDF, qu'il a rejoint quasiment en entier, parce qu'il est, là encore, européen, social et libéral. Vous voyez donc quoi, aujourd'hui, les Républicains sont pris entre le marteau et l'enclume, entre le macronisme qui lui a pris la moitié de sa clientèle électorale, et un Front National, Rassemblement National, j'ai toujours du mal à m'y faire, Rassemblement National qui a réussi en réalité sa dédiabolisation. Écoutez les radios, regardez les télés. Souvenez-vous comment on traitait le Front National il y a 10 ans et regardez comment on le traite maintenant. La dédiabolisation a non seulement parfaitement réussi, mais maintenant il y a une espèce de complaisance, je le dis franchement, de certains confrères journalistes à l'égard du Front National, pardon, du Rassemblement National, pardon, encore une fois, qui est très préoccupante parce que l'antimacronisme de nos confrères va tellement loin dans un certain nombre de domaines que je pense que certains font la politique du pire et préparent en réalité cette remontée de Marine Le Pen qu'on voit en ce moment. Tout cela est très préoccupant et encore une fois pour les Républicains c'est un désastre parce qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus et Tabar le dit aussi, ils n'existent plus parce qu'ils n'ont plus de ligne politique. Ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas travaillé sur les programmes, ils sont habitués à avoir un leader naturel. Ils n'en ont plus, souvenez-vous, c'était Chirac, c'était Pompidou, c'était Sarkozy. Aujourd'hui, il y a 5-6 talents remarquables. Je suis en train de lire le bouquin de Pécresse, il est très bien. Et il attaque Macron là où ça fait le plus mal, sur le budget en particulier, parce qu'effectivement, les finances publiques ne sont pas tenues par Macron. Les réformes sont achetées beaucoup trop chères. Mais ce parti qui a énormément de richesses en tant que leader n'a pas de programme, n'a pas de ligne politique, ne sait pas où il va. Il est en complète déroute.
Aurélie Filippetti, c'est vrai que lorsqu'on commente l'actualité politique française, on a souvent le sentiment de radoter un peu. Par exemple, il y a 15 jours, je crois, dans cette émission, on s'est posé la même question. Quel espace aujourd'hui pour une gauche qui ne serait ni Mélenchon, ni La République En Marche dans sa composante de gauche. Aujourd'hui, on se pose la même question sur la droite et on se pose toujours la sempiternelle question. Est-ce que c'est une affaire de leadership? Est-ce que c'est une affaire d'incarnation ou de corpus idéologique qui aurait été complètement siphonné par RN d'un côté, LREM de l'autre? Vous aussi, vous avez le sentiment de bugger quand vous regardez la vie politique française?
Alors, c'est peut-être plus facile de parler de ce qui, au fond, nous concerne moins. C'est-à-dire que, pour moi, c'est peut-être plus facile de parler de la droite. Moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, il n'y a pas d'espace pour une droite identitaire, wauquiésiste, en gros, sur une ligne Patrick Buisson. Cette ligne Buisson, et tant mieux d'ailleurs, hein, elle a enchaîné des échecs depuis Nicolas Sarkozy, etc. C'est-à-dire que cette ligne qui consiste à aller sur le terrain du Rassemblement National, développer la haine de l'immigré, la haine de l'étranger, la théorie du bouc émissaire, etc., etc. Au fond, là, il y a une impasse totale. Et c'est tant mieux. Donc, je pense qu'il y a un espace pour une droite républicaine. D'ailleurs, ça serait intéressant pour le débat public, parce que rien n'est pire, à mon sens, que cette polarisation entre d'un côté Emmanuel Macron et de l'autre Marine Le Pen. Parce qu'effectivement, l'écart se resserre, et qu'avec la politique libérale, économique très libérale menée par le président de la République, il va s'aliéner au second tour une partie des gens qui avaient pu voter pour lui la dernière fois. Donc, il faut qu'il y ait une offre politique variée. Donc, il faut un espace pour une droite républicaine. Et à mon sens, elle a à choisir cette droite. Pas un chef, parce qu'elle s'en remet trop à cette idéologie du chef, mais vraiment une ligne qui est peut-être une ligne économique. Et là-dessus, on voit bien, il y a toujours eu ces deux écoles, la droite libérale économiquement, et de l'autre côté, une droite plus gaullienne, plus séguiniste, au fond. Si la droite se positionnait sur ce terrain-là, c'est-à-dire, au fond, défendre de nouveau une politique industrielle, une alliance entre des classes populaires, des classes moyennes, des classes plus aisées, sur des thématiques, par exemple, de relocalisation de l'emploi en France, enfin, tout ce qu'incarnait à l'époque Philippe Séguin, je pense qu'elle pourrait trouver un espace. Mais si elle se positionne sur le terrain identitaire et sur la ligne Buisson, c'est une impasse.
Hubert Védrine, je sais que les affaires étrangères vous passionnent davantage que la vie politique intérieure. Comment vous regardez en effet ces leaders qui tentent de réapparaître, je citais cette semaine Rachida Dati, François Baroin, dans un paysage politique qui a radicalement changé depuis 2 ans?
Je ne fais pas une analyse tout à fait différente de ce que viennent de dire Brice et Aurélie sur la situation actuelle. le plus probable aujourd'hui, c'est que ni de la droite, pour les raisons qu'on a indiquées, ni de la gauche, pour d'autres raisons, mais le résultat elle-même, puisse surgir quelqu'un qui soit devant Macron et donc au second tour face à Marine Le Pen. C'est l'état des choses aujourd'hui. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Au second tour, on voit bien à l'avance que Macron regagnerait, mais avec un écart beaucoup plus restreint. Il y a une affaire énorme qui joue à droite comme à gauche. Est-ce qu'on arrive ou non à maîtriser les flux migratoires avec les pays de départ et de transit dans une négociation générale tout en préservant le droit d'asile, c'est d'ailleurs la condition de ceci.
Bon, et c'était le débat cette semaine avec les propositions de l'exécutif sur les quotas.
Ça peut jouer au sein de la droite comme au sein de la gauche, mais c'est ça le plus probable aujourd'hui, pour des raisons structurelles et durables. Et en effet, la droite comme la gauche, d'ailleurs d'une autre façon, se sont complètement trompés sur l'analyse du phénomène. Non pas qu'Emmanuel Macron ait créé la situation, il a bénéficié de façon extraordinaire de la situation, alors il l'entretient par le jeu politique après, mais c'est quelque chose de plus profond et qui touche énormément. On a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, l'effondrement de la CDU et la faiblesse du SPD, qui touche énormément de partis, sans parler du chaos britannique, qui touche énormément de partis de gouvernement dans toute l'Europe, sauf un peu en Espagne et au Portugal, un peu.
Un dernier mot avec vous, Plantu, un dernier dessin plus exactement.
Oui, parce que en fait, quand on fait un dessin, il dit quelque chose à un moment donné, et puis avec le temps, on se dit, tiens, il dit encore autre chose. Là, c'est un dessin que j'ai fait à l'époque quand Hollande était président. Et il y a Angela Merkel qui vient d'accueillir plein de migrants. Et alors, il y a Hollande qu'on a accueilli, mais moins. Voilà, ils ont deux petits plateaux comme ça. Ils sont contents. Et ils sont comme dans une sorte de McDonald's. Et puis, il y a un gars de la droite qui dit, alors moi, vous me mettez des chrétiens, une pincée de kurde et pas de voile. Et donc, ça nous ramène au défilé qu'il y a aujourd'hui. Et d'ailleurs, je retrouve ce dessin qui a plus de 20 ans, avec le fils, vous savez, qui était les fondamentalistes algériens des années 90, avec Jean-Marie Le Pen. Et le gars du fils, il dit, plus on nous interdit et plus on nous fait de la pub. Et Jean-Marie Le Pen, il dit, ah ben t'es pas mal toi pour un arabe. Et le dessin aussi que j'ai fait il y a au moins 25 ans, où on y montre que tout le monde, y compris les médias, et c'est pour ça que j'aime bien faire aussi une autocritique des médias, c'est qu'on les a montré tout le temps Le Pen, Le Pen, Le Pen. On a juste oublié de comprendre qu'est-ce que c'est que le vote Le Pen, et c'est des gens qu'on n'interroge pas assez.
Eh bien, ce sera le dessin de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus aujourd'hui sur la scène somptueuse du Théâtre de l'Odéon, Théâtre de l'Europe, dans le décor des Mille et Une Nuits qui se joue ici à partir de mardi. Merci à vous d'être venus encore si nombreux ce matin. Merci, comme toujours, à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc Jeanrenaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Sandrine Malon, Patrick Muller, Pascal Bramy, Aurélien Arnaud, Omar Fofana et Julien Coquet. Merci aux équipes de France Culture et du Théâtre de l'Odéon qui ont rendu cette émission possible. Dans un instant, bien sûr, c'est l'heure des bonnes choses de Caroline Brouet. On dégustera du miel aujourd'hui, tandis que Marc Weisman, dans Signe des Temps, se demandera, en réponse à ce que disait tout à l'heure Plantu, s'il faut voiler le débat public. Quant à nous, on se retrouve bien sûr dimanche prochain, 11h. Excellente semaine à l'écoute de France Culture.